Voici la suite de la biographie de Jean-Sébastien Bach. Sa vie à Leipzig. De 1723 à 1750, soit plus de 25 ans à Leipzig, Bach succède à Johann Kuhnau comme cantor de l'église luthérienne Saint-Thomas. Le poste ayant été précédemment refusé par le grand Georg Philipp Telemann, le conseil tente de débaucher d'autres compositeurs. Christoph Graupner décline, son précédent employeur, le Landgrave Ernst Ludwig de Hesse-Darmstadt, refuse de lui rendre sa liberté et augmente ses émoluments. Refuse également Georg Friedrich Kaufmann, l'employé à Merseburg, Johann Heinrich Rolle, employé à Magdebourg, et Georg Balthasar Schott, employé à la Nouvelle Église de Leipzig. Le docteur Platz, membre du conseil, révèle dans sa correspondance les raisons du choix qu'ils se résolurent à faire. Pour des raisons importantes, la situation est délicate, et puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. Et Bach est choisi le 22 avril 1723. Il s'y installe avec sa deuxième femme, Anna Magdalena, qu'il a épousée à Köthen. Il enseigne la musique, le catéchisme et le latin dans les deux écoles ecclésiastiques de la ville, Saint-Thomas pour les pauvres et Saint-Nicolas pour les riches, mais doit aussi fournir de très nombreuses partitions pour les églises, une cantate pour chaque dimanche et jour de fête. Il n'y a qu'une seule répétition pour les cantates, mais le cantor bénéficie de solistes instrumentaux brillants, entre autres les trompettistes, ou d'excellents niveaux, des solistes de passage et étudiants du Collegium Musicum. Les chœurs dont on ne connaît pas l'effectif exact sont apparemment capables de chanter des parties difficiles après la formation que lui réserve Bach. Bach se heurte souvent à la jalousie de ses confrères, qui forcent notamment les élèves à boycotter ses leçons de musique. Il mène une vie riche en connaissances, constituant une bibliothèque spécialisée en bibliologie, théologie et mystique. Sa femme l'aide beaucoup dans sa fonction de cantor en recopiant toutes ses partitions. Sa fonction de director musices lui permet d'assister à des réunions musicales organisées au Café Zimmermann pour des bourgeois amateurs de musique et de participer aux débats à l'université. Il ne manque pas une occasion d'aller à l'opéra de Dresde où son fils est organiste. C'est à Leipzig qu'il compose la majorité de ses œuvres sacrées. Il écrit plus de 200 cantates à ce poste, dont 126 nous sont parvenues. À Leipzig, il écrit également les chefs-d'œuvre que sont la Klavierübung, le deuxième livre du clavier bien tempéré, l'offrande musicale, l'art de la fugue, laissé légèrement inachevé, un colossal corpus pour orgue, mais également quatre passions, dont une à deux chœurs, la célèbre Matthäus Passion, un Magnificat, trois oratorios et son testament musical, écrit de 1723 à 1749, la Grande Messe en si mineur. Il est dans cette phase de sa vie où, comme le dit Johann Nikolaus Forkel, il ne pouvait toucher une plume sans produire un chef-d'œuvre. Il est au fait de sa gloire et ses déplacements font l'objet d'encarts dans la presse. Dimanche dernier, M. Bach, le célèbre maître de chapelle de Leipzig, est arrivé à Potsdam dans le but d'avoir le plaisir d'y entendre la noble musique royale. Le soir, au moment où la musique de chambre ordinaire de la chambre entre dans les appartements du roi, on annonça à Sa Majesté que le maître de chapelle Bach attendait la très gracieuse autorisation d'entendre la musique. Sa majesté ordonna immédiatement qu'on le laissât entrer et se mit aussitôt à l'instrument nommé forte et piano et eut la bonté de jouer en personne un thème au maître de chapelle Bach sans la moindre préparation sur lequel celui-ci dut exécuter une fugue. Le maître de chapelle s'exécuta de manière si heureuse que sa majesté eut la bonté de montrer sa satisfaction et que toutes les personnes présentes restèrent stupéfaites. Monsieur Bach trouva si beau le thème qu'il lui avait été présenté qu'il veut porter sur papier une véritable fugue et la faire ensuite graver sur cuivre. Cette citation est extraite du Berlinische Nachrichten de Berlin du 11 mai 1747. Bach commence à perdre la vue en 1745 et bientôt ne peut plus travailler. En hiver 1749 à 1750, il confie par deux fois ses yeux à John Taylor, ophtalmiatre, réputé celui-là même qui fera perdre la vue à Handel 10 ans plus tard. Bach lui confie ses yeux donc, sans autre résultat que de perdre complètement la vue. Affaibli par ses opérations de la cataracte, il ne survit pas plus d'un an. Le 18 juillet, il retrouve soudainement la vue, mais quelques heures plus tard, il subit une attaque d'apoplexie. Bach meurt le 28 juillet 1750. Anna Magdalena lui survit 10 ans, vivant de subsides et de mendicité, à l'entrée de la cathédrale Saint-Thomas. Les enfants de Johann Sebastian Bach. Bach eut 20 enfants de ses deux mariages successifs. Moi, JF, lecteur bénévole pour littératureaudio.com, je vous ferai grâce des détails de tous les noms, de toutes les dates de naissance et de décès qu'on voit ici de tous ces enfants. On pourrait peut-être par contre passer au plus important, non, ceux à retenir. Les fils qu'il a formés, Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian, ils vont tous suivre des chemins différents que Bach avait déjà devinés en disant « Karl Philipp Emanuel est comme le bleu de Prusse. Il sera connu, mais s'évaporera vite. » Seul Wilhelm Friedemann réussira à percer durablement, même s'il mettra du temps avant de réussir. Se basant sur l'excellente éducation musicale inculquée par leur père, les quatre fils se lanceront vite sur la voie du courant préclassique qui prend alors le pas sur le baroque. L'héritage musical de Bach. Avec Johann Sebastian, la musique baroque atteint à la fois son apogée et son aboutissement. Dès sa disparition, le musicien est quasiment oublié parce que passé de mode et dépassé par les nouvelles idées du romantisme, tout comme le contrepoint qu'il a porté à une perfection inégalée. Le corpus, très largement non publié, des œuvres de Bach passe à ses fils. La part d'héritage que Carl Philipp Emanuel reçoit est conservée avec ferveur. Et après sa mort, passe à d'aussi illustres mains que celles d'Abraham Mendelssohn Bartholdy, Carl Friedrich Zelter, Georg Pölchau et la princesse Anne Amélie de Prusse. La part d'héritage de Wilhelm Friedemann est en revanche dispersée. À cause du fruit de la générosité du Bach de Halle, mais aussi à cause de sa gêne financière. Bach est alors passé de mode. De son vivant, il semble qu'il passait pour un virtuose du clavier et comme un excellent autodidacte de l'écriture. En tant que diplomate, le baron Gottfried von Swieten se rend à Berlin en 1770 et fréquente la cour de Frédéric II. Au travers de l'enseignement qu'il reçoit de Marburg et Kirchberger, il découvre et s'intéresse à Carl Philipp Emanuel. Entre autres choses, Frédéric II me parle de la musique et d'un grand organiste nommé Carl Philipp Emanuel Bach. Resté pendant un certain temps à Berlin, cet artiste est doté d'immenses talents supérieurs à ce que je n'ai jamais entendu ou imaginé pour ce qui est de la profondeur, de la connaissance, de l'harmonie et de la puissance de l'interprétation. Néanmoins, ceux qui ont connu son père pensent que son fils ne l'égale pas. Le roi s'accorde avec ce jugement et pour le prouver, une personne chante pour moi le thème d'une fugue chromatique qu'il avait donnée au vieux Bach et sur laquelle devant lui il avait improvisé une fugue à 3, puis à 4 et enfin à 6 voix. Citation de Gottfried van Swieten. Wolfgang Amadeus Mozart lui-même ne faisait pas exception jusqu'en 1782. Il a alors 26 ans. Où les rencontres musicales organisées par le baron Gottfried van Swieten lui font découvrir une partie de l'œuvre de Bach et les oratorios de Händel. Mozart assimila cet immense héritage, son écriture en fut changée et les connaissances acquises se retrouvent dans son œuvre. On pense notamment au Requiem, à la symphonie Jupiter, dont le quatrième mouvement est une combinaison de formes sonates et de fugues à 5 voix écrites en contrepoint renversable, à certains passages de la Flûte enchantée, etc. Ludwig van Beethoven connaissait très bien l'œuvre pour clavecin de Bach et, jeune, il en jouait une grande partie par cœur. Il a pris exemple sur les variations Goldberg pour composer ses variations Diabelli pour piano. Vers la fin de sa vie, Beethoven étudia aussi la grande messe en si mineur du cantor de Leipzig. Ainsi, Beethoven s'inspirera de l'art du contrepoint de Bach pour composer sa Missa Solemnis, œuvre dont il parlait comme étant sa plus grande. Ce n'est qu'en 1829 que Mendelssohn, l'un des successeurs de Bach à Saint-Thomas de Leipzig, fit rejouer la Passion selon saint Matthieu à l'église Saint-Thomas. Il permit ainsi de redécouvrir au 19e siècle le compositeur oublié. Les romantiques, surtout allemands, ont alors repris cet héritage en l'adaptant au goût du 19e siècle et particulièrement Brahms à Vienne. Même le Tristan et Isolde de Wagner où l'étude attentive de l'art de la fugue transparaît, notamment dans le prélude, même ça montre l'influence de Bach. Schönberg voit même en Bach un précurseur de ses théories, et même si l'on peut contester cette allégation, le novateur viennois a écrit sur Bach de passionnantes pages dans ses nombreux essais. Depuis, l'œuvre de Bach, insensible à l'évolution des goûts, reste une référence incontournable de l'ensemble de la musique occidentale. Il semble même que l'enthousiasme gagne l'Asie, et particulièrement le Japon. Dans les années 1930, à Leipzig, une nouvelle approche de la lecture des œuvres de Bach va être initiée par Karl Straube, avec des effectifs instrumentaux et choraux moins imposants que ceux des interprétations du 19e siècle. Straube va aussi jouer les œuvres dites théoriques, comme l'art de la fugue, mais avec orchestre, toutefois. L'aboutissement de ce renouveau baroque se retrouvera à partir des années 1950 avec des interprètes tels que Gustav Leonhardt et ses nombreux disciples, ou Nikolaus Harnoncourt. Gustav Leonhardt et Nikolaus Harnoncourt seront les premiers à enregistrer l'intégrale des cantates. On se doit également de citer John Elliott Gardiner, qui est depuis les années 70 à la tête du Monteverdi Choir et des English Baroque Soloists qu'il a créés. Il a réalisé en 2000, à l'occasion du 250e anniversaire de la mort de Bach, une première mondiale. L'interprétation, au cours de l'année, en concert, à travers le monde, de l'intégralité des cantates sacrées, dont plus de 200 subsistent. un des personnages les plus importants actuellement, et bien sûr aussi Philip Herreweg, qui dirige l'orchestre de la Chapelle Royale et le Collegium Vocale à Gand. Harnoncourt, Leonhardt, Gardiner et Herreweg sont parmi les chefs les plus appréciés pour la musique du cantor de Leipzig, tant par la précision et la virtuosité technique que par la richesse de l'interprétation et leur expressivité. Glenn Gould proposera également une autre approche de Bach en mettant l'accent sur la sensibilité ainsi que sur la rythmique grâce à ses interprétations au piano d'œuvres baroques composées pour clavecin, qui sont remarquables par la lisibilité des lignes contrapuntiques et la clarité de l'articulation. Glenn Gould arrivera à l'apogée de son alchimie musicale dans le deuxième enregistrement des Variations Goldberg en 1981. Cette musique, même revisitée, comme exemple, on pourrait citer Jacques Lussier ou les versions modernes et électroniques de Wendy Carlos. Cette musique donc transposée, voire utilisée comme standard de jazz, garde ses propriétés esthétiques, comme si la richesse de sa structure rendait le reste accessoire. Marcel Dupré jouait l'œuvre intégrale de Bach pour orgue par cœur, de même que Helmut Walker, le grand organiste allemand qui, aveugle dès son adolescence, l'a pris par une écoute attentive. Voici quelques pensées sur Bach par quelques autres musiciens et autres personnes célèbres. De Frédéric Chopin. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme. De Robert Schumann. Devant celui-là, tous les autres ne sont que des enfants. D'Émile Cioran. Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objets, la création fictive et le néant péremptoire. Autre citation de lui. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. De Pierre Vidal. La musique chez Bach tend à devenir un être vivant, palpitant et sensible. De Pablo Casals. Il y a d'abord Bach et puis tous les autres. De Paul Tortelier. Malgré tout mon amour pour beaucoup d'autres, et Beethoven et Mozart ne sont pas les moindres, je ne peux qu'être d'accord avec Casals. Bach les domine tous. De Rostropovitch. Une seule goutte de Bach vaut une citerne d'autres musiques. D'André Suarez. En tout art, de hauts génies dominent sur les autres et semble l'emporter sur toute beauté rivale. Ainsi Shakespeare et Racine, Aristophane et Virgile, Goethe et Stendhal, Rembrandt ou Goya. Mais Bach me donne l'idée qu'il est plus grand, plus puissant, plus beau, plus étendu en musique, plus musical enfin qu'aucun autre artiste souverain dans son art propre. Et même la vertu de Bach est telle qu'il domine sur tous les artistes, en quelque art que ce soit, et non pas seulement dans le sien. Beethoven, jouant avec le nom de Jean-Sébastien Bach, Bach signifie ruisseau en allemand, aurait estimé que Meer, c'est-à-dire la mer ou l'océan, aurait mieux convenu à la majesté et à l'ampleur de son génie. Il l'a dit en allemand de la façon suivante, « Bach sollte nicht Bach, sondern Meer heißen. » Le poète Goethe a pu écrire, à propos de l'œuvre de Bach, « Entretien de Dieu avec lui-même » juste avant la création. « Un mouvement se produisait à l'intérieur de moi et il me semblait que je n'avais pas d'oreilles, encore moins d'yeux, ni aucun autre sens, et que je n'en avais pas besoin. Goethe a dit ceci après l'écoute du clavier bien tempéré. Voici les compositions remarquables de Bach. Il y a la liste des cantates sacrées ou profanes, qui vont des cantates BW 4 jusqu'à la cantate BW 212. À la fin de la lecture, je vous expliquerai un peu la numérotation, justement, de ces cantates. La Passion selon Saint Jean, BWV 245. La Passion selon Saint Matthieu, BWV 244. La Messe en si mineur, BWV 232. L'Oratorio de Noël, BWV 248. Le Magnificat, BWV 243. Les motets de BWV 225 à BWV 231. La toccata et fugue en ré mineur pour orgue, BWV 565, et quelques autres couples de préludes et fugues ou fantaisies et fugues comme BWV 534, 38, 41, 42 jusqu'à 48 en excluant 47. Passacaille et fugue en do mineur, BWV 582. Les variations Goldberg, BWV 988. Les six partitas pour clavecin, de BWV 825 à 830. Invention et symphonie, BWV 772 à 801. Les six suites anglaises, BWV 806 à 811, suivi immédiatement des six suites françaises, BWV 812 à 817. Le clavier bien tempéré, BWV 846 à 893. Le prélude numéro 1, BWV 846. La fantaisie chromatique et fugue, BWV 903. Le concerto italien, BWV 971. Les sonates et partitas pour violon seul, BWV 1001 à 1006. Les suites pour violoncelle seul, BWV 1007 à 1012. Les sonates pour flûte, BWV 1013, 1020, 1030 à 1035. Les six concertos brandebourgeois, BWV 1046 à 1051. Les concertos pour violon, BWV 1041, 42 et 43. Les concertos pour clavecin, BWV 1052 à 1065. Les suites pour orchestre, BWV 1066 à 1070. L'offrande musicale, BWV 1079. Et finalement, dernièrement, mais certainement pas moindrement, l'art de la fugue, BWV 1080. Ici se termine la biographie de Bach telle que l'on peut la lire sur Wikipédia. J'aimerais vous faire part d'une petite note avant de fermer la page sur Bach. Certains d'entre vous devez vous demander ce que signifie ce mot BWV que j'ai répété si souvent. Pour ceux ou celles que cela pourrait intéresser, il s'agit de l'abréviation des trois mots allemands Bach-Werke-Verzeichnis, ou en français, catalogue des œuvres de Bach. Il a composé tellement de musique, en effet, qu'on peut bien lui adjuger un catalogue entier à lui tout seul. Il est à noter que, contrairement aux autres catalogues, le BWV liste les œuvres de Bach d'une façon thématique et non chronologique. Donc, par ordre de numéro croissant, on trouve d'abord les œuvres chorales, suivies des pièces d'orgue, ainsi que d'autres pièces pour clavier, et ainsi de suite. Donc, un petit numéro de BWV n'indique pas nécessairement une œuvre du début de la carrière musicale de Bach. Monsieur Schmiede, le créateur du BWV, a utilisé cette méthode parce que les dates exactes des pièces musicales étaient souvent mal connues. Bach n'a jamais publié ses œuvres. Par conséquent, lui-même, il ne les a jamais identifiées par la date. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous tous bien.